on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hello, 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 bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios sur le 102.2. Il est l'heure de du Canu Info, nous sommes le jeudi, et vous avez donc déjà entendu la voix au micro vert et colo de Laurent, bonsoir à toi.
Et la voix bleue collabo de
Alors,
désolé, c'est
non,
comme ça.
La housse de mon micro est bleu sale, donc je pense que
c'est la couleur
ça correspond
des flics, hein, tu
un
sais.
Petit peu, ouais, c'est pas bleu marine non plus.
C'est voilà, pas, voilà. Ça c'était pire, tu sais.
Bon, bref. Écoute, hein, bon, d'habitude j'aime bien le micro noir, mais ça n'existe plus le micro renard. Tu vois, il n'y a plus de bonnette noire. Voilà, donc on aura bien rigolé sur la technique. Nous allons jusqu'à 20h avant de vous laisser avec la petite cuillère, donc à 20h. Vous parlez de tout plein de choses. C'est Laurent qui ouvrira avec cette belle phrase. On s'est fait avoir. Je continuerai avec une petite grève à la Comédie Française. Ça se passe donc à Paris avec les machinistes. Nous parlons des ennemis de la liberté. Et là, on fera un tout petit peu un tour entre Lyon, l'Irlande et l'Inde. Vous voyez, ça sera internationaliste, tout ça, à la fois local et internationaliste. Et puis, nous parlerons Fatshabol, évidemment, parce que...
Ça y est. Les capitalistes sont heureux.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer quand même avec Zinedine Zidane qui s'en va.
Barré.
Parce que quand je vois que ça
on
fait la une de du monde.fr, je me dis que c'est peut-être l'information que nous aurions pu retenir ce soir, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, je vous le dis tout de suite. Vous aurez compris, c'est un peu le bazar dans notre déroulé. Nous ne commençons absolument pas par l'international. Nous reviendrons ensuite sur un petit peu d'environnement avec Laurent qui vous parlera des baleines et du bétonnage. Nous parlerons d'une intox complotiste. En tout cas, c'est comme ça que moi je la lis. C'est une pétition qui circule depuis déjà quelques semaines sur les huiles essentielles qui seraient soi-disant en danger. C'est ce qu'on appelle de la pseudoscience. Nous partirons ensuite en Israël et nous parlerons de la diplomatie round numéro 2 entre messieurs Trump et Kim.
Donc je vais ouvrir avec cette fameuse... alors mon titre, hein, c'est « On s'est fait avoir ». C'est sur le projet de loi EGalim, c'est la loi qui est issue des états généraux de l'alimentation. C'est une sorte d'acronyme bizarre. Donc cette loi EGalim qui est passée cette semaine. Vous savez que le gouvernement fait passer des lois à la queue leu leu, sans réfléchir, en prenant très peu de recul, en analysant très peu les choses. Et du coup, on enquille des lois. Donc là, on enquille une loi qui est issue d'un truc plutôt où il y a eu de la réflexion un peu, les états généraux de l'alimentation. Et donc, on en attendait pas mal de choses. Et comme d'habitude, hein, tout ce qui était promesse a disparu ou presque de cette loi, puisque comme disait un homme politique célèbre de droite, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, Jacques est toujours présent grâce à cette phrase. Peut-être qu'il restera que pour ça et pour son amour de la bière. Enfin, parce que le reste n'était pas défendable, donc finalement on va garder que ça. Donc cet engagement d'Emmanuel Macron sur le glyphosate est parti, c'est la principale info que tout le monde a retenue, mais on va aller un peu plus en détail sur cette horrible voie qui a été voté donc en premier tour, hein, à l'Assemblée nationale, ça a passé au Sénat et ça reviendra après. Et on va faire un petit tour de ce qui a été des amendements notamment qui ont été refusés. En fait, c'est une loi qui est vraiment finalement rétrograde alors qu'elle aurait pu être progressiste, défendue par Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Et comme tous les ministres de l'Agriculture, c'est les ministres de l'Agriculture productivistes avant tout, même s'il a défendu quelques petits trucs qui étaient défendables et qui sont pas passés quand même. Donc voilà, sur le glyphosate, il a dit qu'il y aurait une commission qui suivrait le truc, mais bon, c'est sans intérêt, la promesse, ça nous fait bien rire. Alors, dans les choses qui n'ont pas été votées et qui sont un petit peu dommages, sur les semences paysannes, l'émission précédente en a peut-être parlé, donc il y avait l'idée d'un amendement pour la cession à titre gracieux ou onéreux des semences entre les gens qui plantent et qui récoltent. Et donc ça a été éjecté. Le but, hein, c'est que l'industrie et les semenciers restent propriétaires de ce qu'ils font. Parce que on rappelle, avec l'industrie productiviste de la céréale, de la graine, on va dire pas de la céréale, de la graine, les paysans ne sont plus propriétaires de ce qu'ils poussent dans leur champ, parce qu'ils ne peuvent pas le replanter, notamment c'est le cas des OGM. Ce qui est une énorme perte, hein, pour les paysans, alors qu'avant ils replantaient une partie de leur culture. Donc voilà, ça s'est passé au travers. Il y avait une idée de rendre public un peu les données de vente de pesticides. Ça a été refusé aussi. Il y avait qui avait été demandé, et Monsieur Travers, le ministre, s'est couché devant les Républicains, qui finalement ils sont tous à droite de toute façon. Il a retiré un amendement qu'il avait déposé, pourtant lui-même, qui demandait au préfet de mettre en place des périmètres de protection autour des habitations, et on pense aux écoles notamment, pour pas qu'elles soient victimes de l'épandage des pesticides. Il y a eu pas mal d'exemples qui ont été montrés ces derniers temps, d'écoles où à côté, dans le champ à côté, notamment dans les vignes par exemple, les agriculteurs mettent des pesticides, c'est-à-dire produits cancérogènes, cancérigènes ou cancérogènes. Et voilà. Et donc il y avait l'idée de que ce soit avec les préfets et avec ça, et que ça soit donné à la population. C'est pas le cas. Et qu'il y ait surtout une zone de non-traitement autour des habitations et autour des écoles aussi. Et des habitations, là, c'était l'amendement, c'est vraiment les habitations. Et ben non, vous continuerez d'habiter si vous êtes à la campagne, et de respirer les pesticides que les paysans vont mettre dans les champs. Mais eux, ils auront des masques à gaz, mais pas vous. Hein, ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est le même problème. C'est pareil, il devait y avoir un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, notamment pour les paysans, qui avait été demandé, et le gouvernement a dit non, et puis le vote a dit non. Un accès au registre des pesticides en open data, c'est-à-dire libre d'accès pour tout le monde, pour savoir quels pesticides sont mis à quel endroit, etc., pour que si vous habitez à côté, vous sachiez un peu comment vous êtes empoisonné, ou si vous l'êtes ou si vous l'êtes pas. Ah ben, bien sûr que non, on met rien en open data, hein, la transparence a priori, c'est pas le but du gouvernement. De même que le suivi sanitaire des familles d'agriculteurs, qui avait été demandé dans un amendement, a été rejeté par le gouvernement et le rapporteur, donc c'est pas passé. Sur les fameux cocktails, puisque vous savez que non seulement les pesticides sont dangereux, mais en fait, les cocktails de produits chimiques toxiques, neurotoxiques, cancérigènes, cancérogènes, j'en passe et des meilleurs, le fait qu'il y en ait plein, ça change aussi la donne. D'ailleurs, il y a très peu d'études là-dessus. Il devait y avoir un amendement qui avait été déposé sur la question des limites maximales du cocktail de pesticides, et non pas de pesticide par pesticide. Mais ça a été refusé aussi, puisque, bon, vraisemblablement, cette loi n'est pas là pour protéger la santé des citoyens. Sur l'autorisation de mise sur le marché, il y avait l'idée qu'il n'y ait pas que les ministres de l'Agriculture qui puisse bloquer une autorisation de mise sur le marché, qui est aussi le ministre de la Santé ou de l'Environnement. Ça n'a pas été autorisé. C'est bien que le ministre de l'Agriculture qui va gérer les produits chimiques, toxiques, dangereux, qui seront mis dans les champs. Alors, des trucs un peu plus positifs. Les PNPP. Alors, c'est quoi les PNPP ? C'est les préparations naturelles peu préoccupantes. Non, c'est quoi une préparation naturelle peu préoccupante ? En fait, c'est les vieux produits qu'on faisait avant, du style le purin d'ortie, des choses comme ça, qui sont peu préoccupante parce que en fait c'est des produits qui datent de très longtemps, qui ont été expérimentés des centaines voire des milliers d'années et dont on sait que l'impact sur la santé est nul ou presque. En tout cas, il est faiblement, enfin les risques sont très très faibles. Et jusqu'à maintenant, il y avait une interdiction. Alors il y avait eu une bataille autour du purin d'ortie notamment, qui est un truc utile, hein, le purin d'ortie. La bataille avait été gagnée et là il y avait un amendement qui généralisait un petit peu en dehors des 148 plantes déjà autorisées à toutes ces vieilles préparations un petit peu d'avant l'agriculture productiviste qui souvent sont des solutions alternatives aux champignons, à l'attaque des champignons, à l'attaque aux pesticides, à des choses comme ça qui peuvent être utiles hein, finalement dans l'agriculture, notamment dans l'agriculture bio. Ça a été accepté. Donc c'est une bonne nouvelle. La Confédération paysanne a d'ailleurs fait un communiqué de presse en se félicitant de cet article 14 ter, donc sur ces préparations naturelles peu préoccupantes. Voilà, ça fait c'est une grosse bataille hein, depuis plus de 10 ans hein, des agriculteurs bio notamment. Donc là c'est une bonne nouvelle. Alors parce que j'ai glissé des bonnes nouvelles au milieu des mauvaises. Hein. Bon, sur la pulvérisation aérienne, donc voilà, il y a une autorisation quasi générale sauf sur les fortes pentes et quand il y a du bio, mais ils ont le droit donc de faire ces pulvérisations aériennes qui sont catastrophiques hein, aussi, puisqu'on en met partout. Là, c'est encore pire que quand on en met au pied des plantes et que le vent emmène. Alors, il y a une bonne nouvelle aussi sur la définition des néonicotinoïdes, j'avais oublié un ni. Donc, c'est une partie des produits chimiques qui attaquent, qui affaiblissent les abeilles et qui les font mourir plus facilement. Et donc il y avait une demande d'élargissement de la définition des néonicotinoïdes. Ça a failli pas passer et c'est passé finalement. Donc ça va augmenter un petit peu le nombre de produits qui vont rentrer dans cette définition-là. Ça bon, on sauvera pas forcément les abeilles, mais c'est déjà une bonne étape. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc sur le glyphosate, je vais revenir dessus. Donc l'amendement a été refusé, et pourtant c'était un amendement. Alors c'est drôle, mais je vais revenir à la fin sur ça. C'est quand même tous des menteurs et des escrocs. Hein, ces élus, en tout cas une très grande partie, c'est quand même le gouvernement qui portait l'amendement sur le glyphosate, l'interdiction du glyphosate. Hein. Enfin, c'est une soi-disant promesse du président de la République que d'ici, je ne sais plus la date, 2023 peut-être, ou 2021, le glyphosate ne soit plus autorisé. Et là, donc, quelqu'un l'avait mis dans la loi. Les élus de La République En Marche, en majorité, ont voté contre, hein, ou pas voté, parce qu'on va en parler, c'est quand même une escroquerie, ces gens. En tout cas, ils sont payés à ne rien faire, ça c'est un concept typiquement parlementaire, hein. Mais je reviendrai à la fin. Donc voilà, ce qui est le plus inquiétant, c'est comment ça s'est passé, comment ça se passe. Alors, avec le glyphosate, on a une idée, puisque la députée Delphine Bateau avait déposé un amendement, l'amendement CD182, le 22 mars dernier, qui demandait donc à ce que l'interdiction du glyphosate soit inscrite dans la loi. Et en fait, cet amendement, il a été donné à l'UIPP, c'est le groupe de lobby qui regroupe Monsanto, Bayer, tous ceux qui produisent des produits qui vont vous faire mourir à plus ou moins long terme, des produits dangereux, neurotoxiques, tout ce que vous voulez. Dès le 23 mars, ils étaient au courant de cet amendement. C'est-à-dire 90 heures avant que l'amendement soit mis officiellement sur le site de l'Assemblée. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu accès à cet amendement, donc il y a des chances que ce soit un élu, qui est en fait un élu traître qui travaille en même temps pour l'industrie de la mort que représentent Bayer, Monsanto, Syngenta et tous les autres, et qui a donc donné, ce qui est illégal, à l'UIPP, donc ce lobby, l'amendement qui allait être proposé pour pouvoir lutter contre. Alors la députée Delphine Bateau a saisi le président de l'Assemblée nationale puisque c'est illégal. Toujours pas de réponse, vraisemblablement. Lui aussi, le président de l'Assemblée nationale, semble plutôt du côté de l'illégalité et de l'UIPP, en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors, dans les choses qui n'ont pas été votées aussi, il y avait un amendement qui demandait l'interdiction des publicités pour les aliments gras et sucrés concernant les moins de 16 ans qui apparaissent notamment dans ces programmes-là. Donc, le gouvernement, la majorité et leurs amis ont dit non, en disant « Mais c'est le CSA qui régule le secteur. » On sait ce qu'il fait, le CSA, puisque si vous regardez à cette heure-là, de la pub pour des produits mauvais à la santé, il y en a plein. Donc le CSA, je ne sais pas s'il a ce rôle-là, mais en tout cas, il ne le joue pas. Hein. Mais bon, ils ont dit que ce n'était pas à eux de le faire. Dans les bonnes nouvelles, le dioxyde de titane, plus connu sous le nom de E171, est suspendu, donc là, interdit. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, il y avait aussi un autre additif qui existe aussi sous la forme de nanoparticules, qui est le cas du dioxyde de titane. C'était le nanosilice connu sous le nom de E551. Lui, par contre, ils ont gardé l'autorisation. C'est dommage, hein, parce que c'est aussi un produit potentiellement très dangereux. Voilà. Sur l'étiquetage des pesticides, c'est une bonne nouvelle. Quand les pollueurs vont vendre des fraises qui ont été traitées, ils vont être obligés de mettre tous les traitements qu'ont subi leurs fraises. Voilà. Bon, alors pour les fraises, encore ça va aller, parce qu'il n'y a pas trop de traitement. Sur les pommes, c'est une catastrophe. Ils vont être obligés de le mettre. Par contre, pas avant 2023. Pourquoi 2023 ? Allez comprendre, ça s'appelle de la complaisance avec les agriculteurs productivistes pollueurs. Parce que, bon, on leur donnait 6 mois, et en 6 mois, ils faisaient des étiquettes. Hein, parce qu'ils ont un historique des produits dans chaque exploitation, donc c'était facile à faire. Mais bon, on y va doucement pour être sûr que tout aille bien. Et ça se trouve, d'ici 2023, ça sera enlevé. Hein, voilà. Bon bref, il y a encore d'autres choses, hein, je ne vais pas aller jusque là, ça passe au Sénat, il y aura un retour, on verra ce qui sera voté à la fin. Pour terminer, il faut quand même, on va regarder juste le 69, puisque Lyon, Radio Canu est à Lyon, au bas des pentes de la Croix-Rousse, dans le département du 69, hein, ou du 69. 69, ça fait jeune un peu, j'essaye de faire jeune un peu.
Parce que tu fais un coucou au 4-2 en fait.
Ouais, je fais ça, voilà. Je fais un coucou au 4-2. Et donc, dans le 69, il y avait des élus, et qui devaient voter. Et bien, il y en a un seul qui est allé jusqu'au bout, dont je vais citer le nom, pourtant c'est un ennemi politique, puisqu'il est membre de La République En Marche, s'appelle Jean-Luc Fugit. Lui, il était à l'Assemblée et il a voté. Et en plus, il a voté contre le glyphosate, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tous les autres, en fait, soit ils étaient là et ils se sont barrés, soit ils étaient absents. C'est-à-dire qu'il y en a qui, a priori, qui étaient là et qui sont partis juste avant le vote, pour pas voter. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout là. Je vais citer leurs noms à ces élus qui nous ont tous trahis, parce qu'ils sont quand même payés pour voter des lois. Ils ont fait craquer le boulot, ils ne seront naturellement pas sanctionnés. Il y a Blandine Brocard, Hubert Julien Laferrière, Jean-Louis Touraine, hein, qu'on connaît bien, Blandine Brocard, je la connais bien aussi, Anissa Keder, voilà, Patrick Verchère, Daniel Kazarian, Anne Bruniera, Bruno Bonnel, Yves Blin, Cyril Isaac Sibyl, qui est un ancien de la politique qu'on connaît bien aussi, Thomas Rudy Goff, Thomas Gassiou et Bernard Perru. Tous ces gens, quelle que soit leur couleur politique, étaient absents lors du vote. Et donc un seul élu du département 69 a osé voter, puisqu'il fallait oser. Du coup, c'est ça, c'est le courage politique dont manquent tous ces élus qui sont majoritairement La République En Marche, mais il y avait aussi les Républicains et le Modem, je crois bien, dans tout ça, voire peut-être plus large. Voilà, c'était pour cette loi, pour cette absence de courage politique. Voilà, c'est une triste loi, comme toutes celles votées finalement depuis un an par ce gouvernement qui va beaucoup, beaucoup trop vite et qui va dans le mauvais sens en plus.
Alors moi j'ai vu sur BFM TV qu'il y avait des burn-out à Matignon.
C'est pour ça qu'il faut craquer
dans les conseillers,
tout le temps.
Il paraît que il paraît qu'il y a justement tellement de réformes qu'ils se font harceler, qu'ils n'arrivent pas à suivre, et puis qu'il y a plein de gens qui se font virer. Ça me fait marrer parce que c'est dire qu'à la tête de l'État il y a du burn-out aussi. Voilà, c'est dire que ça se passe pas très bien a priori non plus avec cette équipe qui a été élue.
Allez, la Comédie Française est en grève.
Ah oui, allez, c'est la grève que j'ai choisie pour cette semaine. C'est une grève qui a démarré le 22 mai dernier, qui concerne la salle Richelieu. Vous savez que la Comédie Française, il y a trois salles. Il y a la salle Richelieu, le Vieux Colombier et le Studio Théâtre. Et là, on parle de la salle Richelieu. Il y a donc plusieurs spectacles qui ont été annulés, dont ou qui se déroule un petit peu bizarrement. Ce sont donc les techniciens machinistes qui sont en grève. Il y a par exemple dans le spectacle La Locanderia sans l'accent, c'est de Carlo Grandini, c'est une mise en scène de Alain Françon, qui est donc annulée. Alors c'est marrant, c'est que la représentation de ce soir accueillait les mécènes de la Comédie Française, c'est donc raté. Et puis il y a les représentations de L'éveil du printemps et de Poussière qui ont lieu mais sans décor. Je vous rappelle, technicien machiniste en grève, pas de décor. Il se paraît que les artistes ont choisi de continuer à jouer. Ils ne voulaient pas briser la grève, mais malgré tout, ils ne voulaient pas se retrouver en porte-à-faux face au public. Donc les pauvres chéris jouent donc sans décor. Le public a le droit de se demander un remboursement ou de venir quand même assister à ces spectacles sans le truc complet, on va dire, c'est le pack complet. Alors, à la manœuvre, on a deux syndicats, le SNAPAC CFDT, qui veut dire le Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture, et le SADPCF de l'UNSA, qui veut dire plus simplement Syndicat Autonome des Personnels de la Comédie Française. C'est donc une grève qu'on pourrait dire qui est une grève... corporatiste, mais moi je vais aller un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui un administrateur général de la Comédie Française qui s'appelle Éric Reuf, qui est là depuis 4-5 ans, hein, si je me souviens bien, qui a une nouvelle politique de création et de proposition au sein de la salle Richelieu. C'est-à-dire qu'il a décidé de proposer plusieurs spectacles en même temps. Donc les choses s'enchaînent. Alors, au niveau des équipes, on dit pourquoi pas, hein, l'idée c'est aussi de faire vivre un lieu, d'avoir de beaux spectacles et d'avoir une très très belle proposition artistique. On peut la critiquer ou pas, là n'est pas mon propos. Le problème, c'est que tout ça, ça demande un travail aux machinistes à la salle Richelieu et dans les ateliers de fabrication qui sont à Sarcelles. Ça demande de monter, démonter les décors plusieurs fois par jour, puisque bah, il faut enchaîner des répétitions et des spectacles qui ne sont pas les mêmes dans une même journée. Hein, donc tout ça sur une même semaine, ça fait quand même beaucoup de boulot, ça amène une charge de travail importante et une charge tout court. Je vous rappelle que du décor, c'est des machinistes et des techniciens qu'on a beau avoir des outils et des machines pour aider, ça demande un effort physique, ça demande aussi ben, une concentration importante. Il faut savoir quand même que dans le spectacle, c'est comme dans le bâtiment, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents du travail, sauf qu'on en parle beaucoup moins que dans le bâtiment. C'est beaucoup moins médiatisé. Il y a eu quelques années un ministère de la Culture qui avait tenté un petit peu de raisonner tout le monde en disant il faut s'équiper, il faut qu'il y ait des chaussures de sécurité, de faire appliquer les lois justement pour que les techniciens et les techniciennes ben, se cassent moins la gueule, se prennent moins des choses dans la tronche, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les grévistes demandent à ce qu'il y ait un triplement d'une prime qui est mensuelle. Hein, c'est à peu près 50 euros, à peu près. Hein, j'ai pas le montant exact, mais c'est à peu près ça. Donc, un triplement. On n'est pas non plus sur une demande absolument délirante, hein, quand même. On a des décors qui sont lourds, beaucoup de choses à la manœuvre. Il y a des constructions, parce que c'est pas juste pousser un décor. C'est le construire, c'est le manipuler. Il faut savoir que l'idée, c'était quand même à la base d'avoir des spectacles qui puissent se suivre avec quelque chose d'un peu lourd et quelque chose d'un peu moins lourd. Là, tout semblait très très lourd à monter, à démonter, et donc les machinistes, les techniciens et techniciennes ont dit stop, ça suffit, on veut une prime. Alors Éric Reuf, il a effectivement réagi, il a proposé une mesure salariale générale, je cite, à l'ensemble du personnel sans distinction de service, d'ancienneté ou de grade. Mais les grévistes, eux, ils demandent une prime pour leur action qui est différente de celle des autres. Donc oui, on pourrait dire que c'est corporatiste parce qu'ils essayent de se protéger, ils et elles, mais en même temps, ils ne font pas le même travail que ceux et celles qui sont dans les bureaux, donc la prime pourrait quand même se justifier puisque il y a un boulot difficile. Alors, moi je pense qu'il faut arrêter de demander des primes, il faut demander des salaires plus élevés dans ces cas-là, parce que la prime c'est toujours un petit peu dangereux, casse-gueule, je vais dire, sans vouloir faire un jeu de mots, parce qu'on peut vous la mettre, vous l'enlever et tout, mais il y a surtout une volonté de faire reconnaître la pénibilité du travail afin de faire vivre cette Comédie Française. Et c'est ça le Richelieu, et c'est ça qui est en jeu actuellement. C'est une grève qui est illimitée. Aujourd'hui, je suis allée donc sur le site de la Comédie Française. Le spectacle de ce soir est donc annulé. Je ne sais pas comment va réagir l'administrateur général, donc Éric Reuf, dans les jours qui vont venir. Mais on espère quand même que ces techniciens et techniciennes machinistes vont obtenir la revalorisation qu'ils méritent. Et qu'ils méritent, bien évidemment.
Alors, ma petite rubrique « Les ennemis de la liberté », j'en ai trois cette semaine. On va commencer par le préfet de Lyon. Et d'abord, le petit mot du tribunal administratif de Lyon, qui est lui aussi un ennemi de la liberté, a priori, qui a décidé hier mercredi de ne pas annuler l'arrêté d'interdiction du passage de la guéparde dans le vieux Lyon.
Marche des fiertés, nous disons maintenant.
Oui, moi si tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Moi, je suis old school, je dis gay pride.
Ouais, mais du coup.
Bon, la marche des fiertés.
En français, ça marche bien aussi.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais le nom de l'association qui organise, c'est Lesbian and Gay Pride de Lyon. Donc, ce qu'ils ont l'ancien nom, le dépôt de leur asso, j'imagine, de l'époque. Bon, la marche des fiertés, donc qui a un arrêté d'interdiction qui date, qui a au moins un an, hein, de l'année dernière. Et le tribunal administratif a décidé de ne pas l'annuler. C'est sympa quand même. Donc ça a fait réagir des membres de l'association Lesbian and Gay Pride de Lyon qui ont dénoncé ce jugement et qui disent, ce que nous disons aussi, le tribunal administratif s'est positionné en défense du préfet qui avait pris cet avis d'interdiction contre la liberté de manifester et en soutien finalement à l'extrême droite. puisque ce qui ressort de tout ça, on rappelle l'histoire, c'est que ça fait un petit moment que la marche des fiertés, comme tu dis, demande, comme d'autres manifestations d'ailleurs, à passer dans tous les quartiers de Lyon et notamment dans le 5e. Et le préfet, depuis l'installation de groupes néo-nazis, refuse tout ça. Alors, au nom de la sécurité, bah, ça ressemble à une constatation et un soutien finalement à dire « Oui, ce quartier, c'est le quartier des néo-nazis, vous, vous êtes opposés, ça risque d'être tendu, vous y allez pas. » Donc il laisse entendre que c'est normal que les néo-nazis soient là, et c'est normal que les progressistes, puisqu'on va appeler comme ça les gens qui participent à ce genre de manifestation, n'ont pas le droit d'aller s'exprimer dans ce quartier-là, alors qu'on rappelle que les néo-nazis ne sont pas majoritaires dans ce quartier-là, en plus. Hein. Donc voilà, c'est ce que dit le préfet, et c'est ce que confirme la justice. Alors, la décision n'est pas définitive sur le tracé de cette année, hein, puisque c'est pas le préfet qui s'est exprimé, c'est la justice. Mais le préfet, il y a toutes les chances qu'il continue sur sa lancée de soutien au droit, à l'extrême droite, d'empêcher une manifestation progressiste dans ce quartier de Lyon, alors que c'est autorisé dans tous les autres quartiers. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on va. Donc c'est quand même et le tribunal administratif et le préfet des beaux ennemis de la liberté. Alors on sait que ils vont redemander hein, l'association pour organiser cette marche des fiertés, et on va sûrement avoir une réponse négative puisque la préfecture continue de jouer son rôle. C'est triste tout ça. Alors dans la série Ennemis de la liberté, mais on va se réjouir du malheur des autres, puisque des fois il faut quand même se réjouir du malheur des autres, vous avez entendu la réponse au oui, on avait parlé la semaine dernière du référendum irlandais sur la libéralisation du droit à l'avortement, et l'église évangélique irlandaise a réagi, et je vais citer Nick Park qui a été triste un petit peu, il a dit « Oui, l'Irlande paraît plus sombre ce samedi matin, mais l'occasion pour l'église de briller est plus grande. » Donc bref, il a mal vécu d'avoir pris une claque. Il a rappelé qu'il s'était beaucoup investi, l'Alliance évangélique irlandaise et les évangélistes irlandais, contre la libéralisation du droit à l'avortement, grosso modo la liberté donnée aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps, hein, c'est un peu ça dont il est question, bien sûr. Donc en tant que chrétiens évangélistes, ils étaient totalement contre cette liberté accordée aux femmes. Ils ont fait beaucoup de mobilisations, d'ailleurs ce qui inquiétait, jusqu'au dernier moment, hein, les défenseurs du droit à l'avortement étaient très inquiets, hein, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation des forces religieuses en Irlande, mais finalement, le résultat a démontré que ces forces religieuses n'étaient plus du tout écoutées et plus du tout majoritaires, puisque le oui l'a remporté à 66,4%, avec un gros taux de participation pour un référendum, 64,5%. C'est-à-dire plus de la moitié des gens se sont exprimés, et ceux qui se sont exprimés, il y en a plus de la moitié qui ont dit oui au droit aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps, et donc là, particulièrement au droit à l'avortement. Donc voilà, ils étaient tristes. Alors, je vais rire un peu, je vais me moquer de lui, parce qu'il a expliqué que son premier objectif était perdu, hein, puisque c'était d'empêcher cette loi qu'il n'aime pas du tout. C'est toujours Nick Park qui parle. Il a dit, par contre, il a eu la confirmation du Saint-Esprit que nous avons bien présenté Jésus-Christ durant la campagne. Bon, bref, le Saint-Esprit lui a donc parlé. Donc, ils sont toujours atteints, hein, ces gens-là. Donc, il a directement parlé au Saint-Esprit. Donc, ça doit être Dieu ou une forme quelconque de Dieu qui lui a dit qu'ils avaient quand même bien combattu. Bah, bravo. Je suis bien content que tu aies perdu, monsieur Nick Park. Je te méprise totalement. Donc, au final, hein, les évangélistes ont perdu ce combat. C'était pas les seuls, hein. Il y a toutes les autres formes d'église, des formes religieuses, parce qu'il y a les catholiques aussi. Voilà, ils se sont battus aussi contre ce droit à l'avortement, contre le droit à la contraception, qui n'était pas dans le référendum, mais dont ils se battent aussi toujours, contre l'égalité homme-femme. Mais on rappellera que c'est une victoire pour les femmes, une victoire des femmes aussi, parce qu'elles ont beaucoup porté les choses, bien évidemment, mais pas que. Hein, quand on se bat contre les forces obscurantistes religieuses, c'est une victoire globale pour la liberté. Ça touche tout le monde, ça se répand tout le monde. En ce moment où l'obscurantisme religieux fait un retour énorme un peu partout dans le monde, hein, on le voit en Pologne, on le voit dans les pays de l'Est, et ben voilà, c'est une belle victoire pour tout le monde que ce qui est arrivé en Irlande. Voilà, on rappelle aussi que les Polonaises, majoritairement, enfin, les Polonaises et des Polonais aussi, avaient déjà aussi bien combattu l'obscurantisme religieux sur le droit à l'avortement. et tout ça. Donc la lutte continue pour le droit des femmes. Et puis dans la dernière ennemie de la liberté, on va parler un petit peu de l'Inde, toujours avec la problématique religieuse, hein, puisque c'est de ça dont il est question. C'est un journaliste qui reçoit beaucoup de menaces de mort. Il s'appelle Ravish Kumar, il est journaliste à NDTV. Alors ça a toujours été un peu un opposant politique, et il reçoit de plus en plus, et ça s'est accéléré ces derniers temps, des menaces de mort. Il faut dire qu'il est opposé, alors il est menacé directement et indirectement, il y a plein de choses. Il y en a qui ont envoyé des mails qui décrivent son appartement, ses trajets quotidiens, qui menacent de le tuer lui, de violer les femmes de sa famille, donc ses enfants et sa femme. Enfin voilà, on a toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce qu'il est opposé, c'est un opposant au Premier ministre, au BJP, un opposant à la politique raciste des hindouistes au pouvoir, et du côté religieux intégriste qu'ils promeuvent plutôt. Et du coup, il se prend toute cet état et ces gouvernants religieux intégristes en pleine figure. Et pour l'instant, il résiste. Alors, on ne sait pas jusqu'à quand, c'est pas le seul. Il y a une journaliste très récemment, Rana Yahub, qui a été aussi victime d'une grosse campagne de harcèlement et de dénigrement, toujours par des amis du BJP et du Premier ministre, M. Modi. Donc voilà, la lutte est très compliquée aujourd'hui pour les journalistes indépendants et opposants en Inde. On dit toujours que l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. Avec l'arrivée de Modi au pouvoir et de son parti, un parti donc religieux, rigoriste, hein, si on ne veut pas le classer d'intégriste, ça a fait du mal à cette grande démocratie. Et on s'en rend compte notamment avec l'attaque des journalistes. D'ailleurs, ça s'est vu dans le classement RSF, Reporters sans frontières, puisque l'Inde a encore reculé. Aujourd'hui, ils sont 138e sur 180, donc ils sont vraiment dans le bas du classement.
Alors on va parler maintenant de toute autre chose, on va parler des profiteurs et on va parler football, et je vais ouvrir avec une querelle sportivo-politique que j'aurais pu appeler politico-sportive, mais j'avais envie d'inventer des mots. Alors je vous rappelle qu'entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a un conflit avec une rupture des relations diplomatiques et commerciales. L'Arabie Saoudite a été suivie par les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte dans son conflit contre le Qatar. Et une des conséquences de cette querelle, de ce conflit, c'est que la chaîne et le groupe Qatari Bein Sport ne peut plus être diffusé en Arabie Saoudite. Vous suivez jusque-là, tout est simple. Oui. Alors, il y a au milieu de tout ça, un opérateur qui s'appelle Arabsat, qui est un opérateur satellitaire qui est en Arabie Saoudite, qui a créé un bouquet qui s'appelle Biaoud Q. Oui, et qui propose d'une manière assez illicite...
Totalement pirate, en fait.
C'est ça. D'une manière donc illicite, les matchs normalement
de l'ennemi.
Transmis par beIN Sport.
Qui a acheté le monopole de la diffusion.
Alors, monopole, non, mais voilà.
Enfin,
le
droit à la diffusion.
Donc, Arabsat diffuse au Moyen-Orient et au Maghreb, ce qui fait quand même potentiellement une grosse perte pour beIN Sport, parce que c'est pas très cher Arabsat par rapport à beIN Sport, vous voyez, et puis qu'en plus c'est facile à avoir, et puis que ça permet en plus de détourner le blocus saoudien. Alors le Qatar accuse l'Arabie Saoudite de favoriser cet opérateur. Et,
forcément, c'est un satellite qui leur appartient.
Voilà.
Il voulait le couper, il le couperait.
Il y a une guéguerre. Donc le Qatar demande à la FIFA de bien vouloir sanctionner l'Arabie.
Et jouer son rôle. Du coup.
Saoudite. Ah ouais, mais alors la FIFA, tu penses bien que derrière il y a les pépettes et tout ça, donc c'est toujours très très compliqué. Alors il paraît que M. Infantino, qui est le patron de la FIFA, s'est rendu samedi dernier en Arabie Saoudite rencontrer M. le prince héritier pour, paraît-il, juste de parler Coupe du Monde. Mais bon, en fait, on ne sait pas bien. Ah, parce que je vous rappelle que l'Arabie Saoudite va participer à la Coupe du Monde, de football, bien évidemment. Donc, en réaction, beIN Sport a donc décidé de diffuser 22 matchs des 4 équipes arabes qui participent à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, donc, l'Arabie Saoudite, comme je viens de vous le dire, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, dans les fameux pays dans lesquels l'opérateur Arabsat diffuse d'une manière tout à fait illicite les programmes de beIN Sport habituellement. Donc, c'est une guerre sportive. Politique, politico-sportive, comme je vous le disais, parce qu'on parle bien là-bas de foot, de piratage de matchs de diffusion et de retransmission, mais qui se passe alors que deux pays sont en querelle.
Il y a quand même des chances que... Enfin, on peut imaginer, en général, l'Arabie Saoudite est légaliste quand même sur ce genre de truc. Là, si elle laisse passer un truc sur son propre satellite, c'est bien parce que c'est un ennemi, et que ça fait du tort à un ennemi politique.
Alors,
voilà, ils instrumentalisent à mort le truc.
Ce qui est très intéressant, c'est que du côté des autorités saoudiennes, on fait savoir qu'on va récupérer les décodeurs dits illégaux d'ArabSat. C'est-à-dire que finalement, on aurait presque l'impression que l'Arabie Saoudite, en tout cas les autorités, souhaitent qu'il n'y ait rien du tout qui vienne du Qatar, qui soit même accessible, de même d'une manière tronquée, illégale, puisqu'ils ont fait savoir, hein, par médias interposés, qu'il y avait eu 5000 appareils qui avaient été saisis et détruits, et qu'il y a une campagne contre les vendeurs de ces abonnements ArabSat. Donc c'est une guéguerre absolument intéressante, mais qui fait partie d'un conflit bien plus important, bien évidemment. Alors on va continuer avec le foot, puisque vous avez peut-être appris que mardi, c'est le groupe Mediapro qui a décroché les droits de diffusion de la Grande Ligue et qui laisse quelques miettes avec Beansport. Par contre, c'est Canal+ qui n'a plus rien.
Ça faisait un moment qu'ils perdaient des choses, et là, je crois, ils ont tout perdu.
Alors, Canal+ n'a plus rien. On n'a même pas obtenu le moindre petit match à diffuser entre 2020 et 2024. Alors, il y a 1,1 milliard d'euros qui ont été dépensés pour ces droits de diffusion de cette Ligue 1. Mediapro, c'est un machin qui a été créé... Alors là-bas, c'est un petit groupe audiovisuel qui a été créé par deux Catalans, deux journalistes, en 94. Alors, j'ai pas l'accent catalan, donc je suis toujours très très embêtée de vous signer les noms. Je vais vous les citer, vous irez les lire sur Internet ou dans les médias papier. Rom Jores et Joseph Maria Benet Ferrand. En 2006, alors bon, ça a vivoté ce petit groupe audiovisuel, et puis en 2006 ce groupe Mediapro fusionne avec Globo Media. Là, ça devient beaucoup plus important puisque ça devient producteur de films, de cinéma, de télévision. Et puis en 2010, il faut se souvenir qu'il y a eu une guerre du football avec Sogecable, et Mediapro devient là propriétaire de droits de retransmission du football espagnol, et depuis Mediapro a gardé un monopole absolument considérable. C'est devenu maintenant une belle multinationale. Le chiffre d'affaires en 2017, pour vous donner un petit chiffre, c'est 1,6 milliard euros.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Alors, Mediapro, c'est le monopole en Espagne avec la Liga, la première division espagnole. Il faut savoir que depuis ce mois de février 2018, Mediapro appartient à une holding qui s'appelle Imagina Media Audiovisual, qui appartient à Orient Ante Capital, qui est le principal actionnaire avec plus de 53% du capital, et c'est un truc chinois. Vous voyez, vous suivez la multinationale, comment ça va bien?
En fait, c'est juste du business, le sport, le foot, alors, tout ça, on s'en fout.
Les deux patrons de créateurs qui ont fondé le machin en 94 possèdent toujours 12% de Mediapro. Ils sont restés à la manœuvre quand même. Alors là, tout le monde évidemment se demande. Alors il y a une petite histoire quand même, c'est que Rom Jores, dont je ne sais pas dire le nom et je m'en excuse, c'est un ancien trotskiste. Il est connu aussi parce qu'il a commencé à produire les films de Woody Allen par exemple, et puis qu'il a produit un truc dont vous avez parlé ici et que j'avais beaucoup beaucoup démonté, c'est ce fameux film d'Oliver Stone sur Cuba et Fidel Castro que je vous avais démonté, peut-être que vous en souvenez. Et donc il y a plutôt une tendance d'être présenté à gauche, et surtout il est pour l'indépendance de la Catalogne. Je finis la petite parenthèse sur ce monsieur, voilà. Mais la multinationale est bien là malgré tout derrière. Donc alors là, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer avec Mediapro, parce qu'ils ont dépensé c'est 780 millions d'euros, le reste c'est Beansport, pour s'offrir donc 80% de cette Ligue 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une diffusion sur une nouvelle chaîne? Mais tout le monde
parce
se dit,
pour l'instant ils n'ont pas de chaîne de diffusion en France.
Et ben la question c'est, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle chaîne qui serait payante, machin? Donc est-ce qu'ils ont les reins financiers pour
est-ce
payer
ces trucs? Ils ont acheté des droits sans avoir de chaîne.
On n'est pas sûr, mais la question est de savoir s'ils vont pas du coup être loueurs de ces droits à d'autres. Alors il paraît que le patron de Mediapro France, je vous rappelle c'est multinational, a dit que c'était pas du tout le cas, ils n'étaient pas des spéculateurs. Quand tu mets 780 millions d'euros dans un truc, excuse-moi, mais bon quand même, il faut pas dire. En tout cas, bon, du côté de Maxime Saada, le patron de Canal+, ça se passe pas très très bien. Donc il y a une bagarre là intermédiaire entre Mediapro et Canal+ pour dire que non, nous on est les gentils, mais non, c'est vous les méchants. Globalement Canal+ est pas content, mais il faut dire que Canal+, il faut souvenir qu'ils font leur business avec le foot, le cinéma et les séries, mais le football, c'est la base de Canal+. Il y a déjà beaucoup d'abonnés qui sont partis, hein, puis que depuis que M. Bolloré est là...
Mais il est reparti, là.
Oui, mais bon, ça se passe pas très bien, hein, quand même, depuis qu'il a la manœuvre. Ça a quand même été un petit peu la cata. L'idée, c'est de savoir si, du coup, il va y avoir quand même une sous-licence, si vous voulez, possible, et donc Canal+ pourrait peut-être acheter. La problématique, alors il faut pas enterrer Canal+ tout de suite, hein, même si on pense qu'effectivement beaucoup d'abonnés vont certainement se barrer. La problématique pour Canal+, si on l'a déjà raconté à cette antenne, c'est qu'il y a SFR qui se lance avec sa chaîne, qui va d'ailleurs changer de nom, qui va plus s'appeler SFR Sport, mais qui va s'appeler RMC Sport, qui va être dédié au foot, et qui en plus a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, et puis tout le machin britannique et anglais. Donc ça va être une chaîne où il pourrait y avoir des abonnés. Et puis il y a beIN Sports qui est quand même à la manœuvre depuis quelques années. Et puis on pensait à Orange qui pourrait aussi peut-être à un moment jouer un petit peu les novices au niveau du foot. Donc c'est-à-dire Canal+ va devoir continuer à sortir de la thune globalement pour garder des abonnés. Et puis je vous rappelle que Canal+ est en concurrence avec Netflix sur les séries, donc ça fait beaucoup pour le groupe audiovisuel. Donc on se demande un petit peu quand même de Mediapro ce qu'ils vont faire pour rentabiliser ces 780 millions d'euros. Il va bien falloir quand même que les pépettes, elles rentrent. Mais ça veut dire que Canal+ a même plus les reins solides, financiers, pour pouvoir s'acheter des droits sur du football français. Ce qui est quand même très marrant. Et on sait qu'il y a déjà tellement de fans de foot qui sont prêts à payer qu'ils ne vont pas pouvoir aller au-delà. C'est-à-dire que ce n'est pas extensible. Hein. Nous, on trouve que déjà, il y en a bien assez. On rappellera simplement que tout ça profite au club de football qui récupère la manne financière hein, de ses droits de retransmission. Et tout ça permet de continuer à créer des millionnaires en short et en maillot, puisque ça permet de créer des stars qu'on paye très très cher. Donc voilà, là c'est un coucou personnel aux fans et aux supporters de foot. Vous soutenez quand même des équipes qui brassent du pognon, du pognon, du pognon, et tout ça n'est pas juste des gars et des nanas qui courent après un ballon, mais bien un business qui rapporte très très cher.
Non, parce que si vous aimez le foot, vous en faites, vous n'avez pas besoin de le regarder non plus.
Voilà.
Des pêcheurs japonais sont de retour, puisque nous avons le bilan de la campagne de pêche de cette année sur les baleines. Et le chiffre est astronomique, dirons-nous. 333 baleines ont été assassinées, tuées, capturées, vous appelez ça comme vous voulez, par les baleiniers japonais cette année. Et dans ces 333, 122 baleines étaient des baleines femelles, hein, c'est un mammifère, on vous rappelle la baleine, et ces femelles, ces 122 femelles, étaient porteuses de petits qui allaient naître. Et ça, c'est pas très bien, parce que ça veut dire qu'il tue la mère et le futur bébé. Et quand on sait, le futur bébé, c'est pas un bébé, le futur baleine, le futur bébé baleine, si vous voulez. Et donc, c'est pas très bien, puisque les baleines, il n'y en a pas tant que ça, et que tuer la maman et le futur petit en même temps, c'est quand même pas terrible. Donc voilà ce qu'ont fait les Japonais, qui sont les maîtres assassins des baleines dans le monde. Hein. On rappelle qu'ils utilisent l'idée, la propagande, qu'ils ont besoin de faire des études scientifiques pour savoir le nombre de baleines qu'il y a, pour les tuer, puisque c'est des assassinats, des tueries et des pêches à visée scientifique. L'autorité baleinière mondiale, qui s'appelle la Commission baleinière internationale, la CBI, a émis son rapport à nouveau sur ce que fait le Japon. Le Japon essaye de prouver en fait qu'il y a assez de baleines dans le monde, enfin dans la région en tout cas, pour qu'ils continuent, pour qu'ils aient le droit de faire une chasse cette fois 100% commerciale. Hein, à savoir que cette pêche à des visées scientifiques, les baleines pêchées se retrouvent sur les marchés, ils la vendent. En fait, c'est soi-disant de la science, mais à la fin, c'est du commerce. Hein. C'est juste une excuse. Voilà. Donc, c'est juste que cette année, c'est à nouveau une catastrophe, puisque les baleiniers japonais ont continué de massacrer à tour de bras les baleines. Et ce qui est le plus critique, c'est quand même ces 122 baleines qui allaient faire des petits baleiniers, baleineaux, baleines. Hein. Je ne sais pas comment on dit.
Oui, enfin les bébés baleines.
Des bébés baleines.
Voilà, on va aller un peu bêtement et
voilà,
pas très...
on va dire bébé baleine.
Voilà, allez.
Hop. C'est la maman baleine, le bébé baleine. Nous n'avons pas 4 ans, non, pas du tout, mais nous n'avons pas trouvé les mots. Nous allons parler maintenant de la loi littorale qui est en phase d'être cassée par La République En Marche, qui casse tout les choses protection, qui protègent un peu la nature, puisque dans le projet de loi qui va être voté très bientôt, ils vont faire sauter ce qui s'appelle les dents creuses. Les dents creuses, c'est les parties du littoral qui sont non construites, c'est-à-dire naturelles, entre des villages, entre des villes, entre voilà, des constructions. Et ces dents creuses sont protégées dans la loi littorale traditionnelle, hein, qui a une trentaine d'années et qui a permis de limiter le bétonnage du littoral français. Et là, ils vont faire sauter tout ça très bientôt pour permettre aux bétonneurs de continuer de bétonner la côte, les côtes françaises. Donc voilà ce qui est en cours. La loi n'est pas encore passée, hein, parce que c'est en négociation, et ça va arriver très bientôt. Donc voilà, c'est une nouvelle destruction de la nature. Ça détruit le social, ça détruit la nature, la République en marche. C'est quand même pas très bon pour nous.
Alors, on va parler un petit peu de ces huiles essentielles, puisqu'il paraît que bientôt elles vont être interdites à la vente libre. C'est un certain Guillaume Chopin qui nous raconte ça, qui fait circuler depuis déjà plusieurs semaines sur les réseaux commerciaux et sur tous les sites amis qu'il a pu trouver. Il représente Association Santé Naturelle et il a écrit un très très long texte dans lequel, globalement, il nous explique qu'il y a Big Pharma, hein, c'est Big Brother, Big Pharma, c'est donc l'industrie pharmaceutique, contre l'homéopathie, les plantes, pas les naturistes, on n'a rien contre les naturistes, qui nous explique donc que, en fait, l'Agence nationale de sécurité du médicament veut interdire les huiles essentielles. Tout ça, ce n'est absolument pas vrai. Du tout. Effectivement, l'Agence nationale de sécurité du médicament est intervenue auprès de plusieurs entreprises françaises pour simplement faire respecter et la réglementation française, ouais, et la réglementation européenne, parce que, comme dans tous les produits, il y a des règles qui disent que quand c'est un produit cosmétique, c'est pas la même chose qu'un produit qui serait là pour soigner. Hein, donc il faut que les bonnes informations soient mises dessus, et puis que surtout il faut que ça soit bien présenté pour que le consommateur et la consommatrice n'aient pas de risque de toxicité en mélangeant des choses qui ne devraient pas l'être. Donc d'après monsieur Guillaume Chopin, en tout cas, c'est l'industrie pharmaceutique qui est à la manœuvre et qui veut donc faire interdire ces huiles essentielles parce qu'elle veut tellement nous vendre de médicaments que cette industrie est prête à nous empêcher de nous soigner correctement et avec des alternatives.
Alors quand on connaît l'industrie pharmaceutique, on se dit c'est crédible, et c'est justement pour ça qu'il arrive à faire passer un discours, c'est qu'il se sert de la mainmise trop importante du capitalisme dans la santé pour essayer de vendre ce qui s'approche plutôt de l'escroquerie de sa part, pas sur les huiles essentielles, mais sur tout le reste.
On va chercher un petit peu qui est Guillaume Chopin. Alors, il est anti-vaccin, d'une manière générale. Il prône l'homéopathie, vous savez ce qu'on pense de l'homéopathie. Enfin, il a un discours qui est assez habituel, avec les poncifs assez classiques.
On ne pense pas de l'homéopathie, on constate que ça ne marche pas.
Oui, enfin, on a lu les études. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il est repris par tout un tas de gens, comme je vous le disais, sur Internet. Et on le retrouve particulièrement sur des sites qui ne sentent pas forcément très, très bons. Par exemple, vous pouvez aller voir parolededieu.fr. Je me fiche de l'obédience de parolededieu.fr. Mais on y lit quand même des choses sur les huiles essentielles. Donc, ils reprennent le texte et la demande de pétition. Mais c'est comme ça qu'on y apprend que l'Alzheimer peut se soigner avec des inhalations de romarin, de citron, de lavande et d'orange. Donc c'est aussi des sites qui sont pas très bons, qui reprennent aussi ses propos, et il a l'air très très content de ces choses-là. Alors, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais être obligée un peu de vous citer quand même ce que ce monsieur prétend. Donc il commence en disant: Madame, Monsieur, parce que c'est quand même quelqu'un de poli, sans que personne ne se rende compte, ils sont en train de signer la fin, en majuscule, des médecines douces et l'interdiction des huiles essentielles. D'abord, ils ont réussi à imposer 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons contre l'avis des professionnels de santé consultés en janvier 2017. Puis, ils ont déclenché une offensive inédite contre l'hémopathie avec un rapport officiel du 27 septembre 2017 réclamant son déremboursement pur et simple. Je ne sais pas qui est il, hein, à ce moment de ma lecture. Ils ont aussi signé la mort d'un des meilleurs remèdes naturels contre l'arthrose, la viscosupplémentation, qui n'est plus remboursée. Et un groupe de 124 médecins vient d'enfoncer le clou le 19 mars 2018 dans le Figaro Santé en appelant les Français à la méfiance contre les médecins alternative, et en particulier l'homéopathie. La guerre est même déclarée contre la médecine chinoise. Il y a quelques semaines, 40 policiers, gendarmes et agents des fraudes ont fait une véritable descente dans un des plus gros laboratoires européens de remèdes chinois basé en Belgique. Mais attention, tout ça n'est rien face à ce qu'ils sont en train de préparer. Le plus gros coup de poignard arrive, il va être terrible et personne n'en parle. Leur vraie priorité, c'est de vous empêcher d'utiliser les huiles essentielles pour guérir. C'est une offensive sans précédent contre le droit à se soigner naturellement. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une pétition pour la sauvegarde de l'aromathérapie française et l'usage libre des huiles essentielles. Bon, c'est une attaque quand même assez claire et au début qui n'a aucune preuve de rien du tout.
Non,
donc...
mais ça fait très discours révisionniste ou
complotiste, dis-le.
Des choses comme ça, quoi.
Moi, quand je lis il, j'ai l'impression que les ovnis sont arrivés sur Terre et que c'est eux qui veulent nous empêcher d'utiliser des huiles essentielles, à moins que ça soit la CIA. Mais bon, là, je vais trop loin parce que c'est pas du tout ce qu'il dit. Mais c'est vrai que ce il au pluriel est toujours un petit peu curieux. Donc, parce qu'il pourrait dire elle, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Si, je vais y arriver, pardon.
C'est aussi un ennemi, mais c'est pas le
voilà.
Même.
Sous la pression des lobbies pharmaceutiques, les huiles essentielles sont devenues la préoccupation numéro un de l'Agence française du médicament, la police de la santé en France. Il dit absolument n'importe quoi. Oui. Il n'a aucune preuve de rien.
Et puis, attends, ce qui est un truc marrant, c'est que le lobby de l'industrie pharmaceutique, en fait, il s'oppose. En fait, il n'y a pas un lobby. Parce qu'il y a le lobby des allopathes, ceux qui font des médicaments, qui les font tester et qui vérifient que ça marche, avec Sanofi, tous ces grands-là qu'on n'aime pas, mais qui font des produits qui nous soignent, on est bien content quand même d'avoir des trithérapies, des choses comme ça pour ceux qui ont des grosses et des vraies maladies ou ceux qui sont soignés du cancer. Et l'autre côté, il y a une grosse partie de l'industrie qui fait énormément de lobbying, peut-être encore plus, qui est par exemple Boiron, les homéopathes. Hein. Et alors, ils parlent desquels? Ah, bah, ils parlent pas de ses amis Boiron. Eux, ils ont le droit
et
de faire.
Attends, parce qu'ils parlent quand même de stratégie souterraine. C'est une, pas mon expression, c'est la sienne. Et il dit qu'il a eu un. D'ailleurs, il a une preuve parce qu'il s'est procuré un document via Internet. Ben, moi aussi, ça m'arrive tous les jours. Donc, bon, Internet, c'est vrai, c'est bien connu. C'est un bon moyen de trouver des tas de choses. Donc, il paraît que les huiles essentielles n'ont jamais tué personne. Ben, heureusement, hein, voilà. Qu'on voudrait nous faire croire que c'est un poison dangereux. Alors, vous comprenez ce qui est en train de se passer avec les huiles essentielles? Ils ne veulent pas que l'on se dise que ça marche, que ça soigne, !. Ils ne veulent pas que les Français comprennent l'incroyable puissance de ces substances naturelles capables de soigner 90% des maladies. Ils ne veulent pas que les médicaments chimiques de Big Pharma soient délaissés au profit de ces merveilles de la nature, avec un N majuscule, qui sont bon marché et faciles d'utilisation. Pourtant, les huiles essentielles sont très efficaces, peu coûteuses et n'ont quasiment pas d'effet indésirable. Bon, on est dans, je vous le disais, des poncifs assez classiques. J'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce document, mais globalement c'est assez classique et c'est dommage que ça soit repris sur des tonnes de sites, parfois qui craignent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur paroledieu.fr, mais sur d'autres qui se voudraient plus sérieux. Ce monsieur est complotiste tout simplement, hein. Voilà.
Oui, puis alors pour le coup c'est quand même super dangereux, hein. On a pas mal de cas de gens qui ne soignent pas leurs enfants pour ces idées un peu new age là, la nature est bien et qu'on doit se soigner avec la nature. On va pas dire qu'on est contre la nature, on fait des rubriques environnement tout le temps et on défend la vraie agriculture bio, tout ça, mais non, c'est pas vrai. Quand on veut se soigner d'une maladie et 90% des maladies, je vous rappelle, les maladies qui nous tuent, parce que si c'est une maladie qui ne nous tue pas, qu'on est un peu fatigué, c'est pas très grave, mais on est bien content d'avoir des antibiotiques pour se soigner d'une infection, on est bien content d'avoir les trithérapies pour ceux qui sont séropos ou qui ont le sida, on est bien content d'avoir des médicaments contre l'hépatite C, ben voilà, et on a beau dire tout ce qu'on veut, même si partie des médicaments allopathes sont inspirés des plantes.
Excuse-moi, ça soigne d'après lui 90% des maladies, ah, mais c'est n'importe quoi.
Mais oui, mais alors du coup, après, on a des gens qui ne soignent pas leurs enfants.
Non, mais qu'ils ne se soignent pas eux-mêmes.
Ouais, mais ça, s'ils ne se soignent pas eux-mêmes, c'est leur choix. C'est... Oui. Moi, je respecte. Bon... Mais qu'ils ne soignent pas leurs enfants et qu'ils les laissent mourir, c'est quand même super triste. Quoi.
Donc, il paraît que, rendez-vous du compte, c'est. Alors, j'ai appris aussi qu'il paraît que l'industrie pharmaceutique est encore plus agressive et le lobby encore plus fort aux États-Unis d'Amérique. C'est là où je te dis que bientôt on va nous parler de la CIA. Donc voilà, si vous voulez aller lire ce grand moment, c'est sur sauvonslesHuiles.com. Je pense que c'est important aussi d'aller le lire en entier pour pouvoir aussi se rendre compte des bêtises que vous pouvez retrouver aussi sur Internet et que on a le droit. Tout à l'heure on parlait du purin d'ortie. Nous on aime bien les plantes, il y a pas de souci. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Le purin d'ortie ça marche.
Et puis surtout il faut arrêter d'être complotiste.
Voilà. Et oui, et c'est pas parce qu'on lutte, parce que nous on lutte, on est contre l'industrie pharmaceutique. pharmaceutique.
Non, mais pas contre l'industrie pharmaceutique.
Dans sa forme capitaliste actuelle, que ça devrait être des industries publiques qui font des médicaments avec libre de droit, etc. Il faut une industrie pharmaceutique. On en a besoin. Mais elle doit être libre, autogestionnaire et tout ce qu'on veut, et pas capitaliste. Mais c'est pas parce qu'on critique cette industrie capitaliste qu'on doit tomber dans les travers du complotisme, de l'anti-vaccin, de... c'est juste drôle, finalement.
Allez. Voilà, c'était juste pour vous raconter ça.
Un tout petit mot, ça va être très rapide. La France a une position un peu ambiguë sur Israël et sur la Palestine, puisque au lieu de condamner la politique israélienne, M. Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ami-ami avec quelqu'un qu'on peut qualifier facilement de criminel de guerre aujourd'hui, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, qui est invité à Paris régulièrement. Alors, il a déjà été accueilli dès décembre. Là, il va être reçu mardi prochain. Tout ça pour lancer un truc horrible, hein, qui est une manifestation israélo-française autour de la culture et de plein d'autres choses qui commence le 1er juin. Donc un truc entre la France et Israël. J'ai perdu le nom d'ailleurs, comment ça s'appelle exactement, petite chose. Alors on sait que c'est l'année du Japon en France, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un truc israélo-français qui est mis en place entre la France et l'Allemagne pour faire la promotion d'Israël, puisque c'est de ça dont il est question. Et c'est quand même triste de voir ça, puisqu'on attendait un peu plus de clairvoyance, d'intelligence politique de la part de Macron sur cette question internationale. Benjamin Netanyahou respecte ni les gens, ni les Israéliens, en tout cas pour ceux qui ne sont pas juifs, qu'on appellera des Arabes israéliens, pour reprendre le terme officiel qui est un peu nauséabond. En tout cas, les Palestiniens d'origine, on va dire. Pourquoi ne pas condamner, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et collaborer, parce que ça va plus loin que ça, du coup, avec ces activités culturelles que la France met en œuvre avec Israël, et ben la France collabore avec le régime d'extrême droite porté par Benjamin Netanyahou et ses amis, au lieu d'essayer de trouver une solution de paix et de la mettre en œuvre, ce que vraisemblablement ne veut pas faire Monsieur Macron. Donc voilà, c'est triste. Alors du coup, il y a un rassemblement. Donc Netanyahou est entendu mardi 5 juin à Paris. À Lyon, il y a un rassemblement le 5 juin sur les quais du Rhône, quai aux Gagneurs, près du pont de la Guillotière, sur le contrebas, là, je pense. Ou au-dessus d'ailleurs, peut-être, vous verrez, 5 juin à 18h, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la collaboration de Macron, c'est-à-dire de la France, avec Israël, l'Israël de Netanyahou.
Alors, on va terminer avec ce sommet Trump-Kim, qui pourrait finalement être maintenu. Je vous rappelle qu'il est censé avoir lieu le 12 juin prochain, mais que la semaine dernière, M. Trump, par un courrier, avait dit il l'annulait d'une manière unilatérale, hein, puisque c'est M. Trump qui avait décidé de ne plus vouloir rencontrer M. Kim. Alors, c'est un sommet qui est dit comme étant historique, mais depuis, M. Kim est allé rencontrer M. Moon, le président sud-coréen, c'était ce week-end. Donc il y a encore des négociations qui sont en cours. Et puis on sait que par exemple le chef de cabinet nord-coréen est allé rencontrer une délégation des États-Unis d'Amérique, je crois que c'est à Singapour. Et puis qu'on sait aussi que Kim Jong-chol, qui est un ancien espion nord-coréen, qui est aujourd'hui chargé des relations intercoréennes, est allé rencontrer le secrétaire d'État Mike Pompeo à New York, alors que M. Kim Jong-chol est interdit normalement d'entrer aux États-Unis d'Amérique, donc il a eu une dérogation. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont en train de se négocier pour que finalement peut-être ce sommet puisse avoir lieu.
Bon, on ne comprend pas tout ce que fait Trump. Alors on se demande si ce n'est pas des gens qui bossent en parallèle sur lui, qui essayent de lui mettre la pression aussi. C'est totalement incohérent son comportement.
Je pense que c'est un peu incohérent, mais c'est surtout que la grande question, c'est à quoi ça va servir ce sommet si jamais déjà, 10 jours avant, on n'est même pas capable de savoir si ces deux personnes vont se rencontrer ou pas. Reste que la Corée du Sud et le Japon espèrent sûrement éviter de se prendre un missile dans la tronche, hein, mais il semblerait qu'il y ait deux abrutis qui qui ait d'autres problèmes d'ego et peut-être de gros machins. Il y a des enfants qui nous écoutent. Et que c'est peut-être bien ça aussi qui bloque un petit peu toute l'affaire. Mais effectivement, il y a quand même deux pays qui espèrent qu'il y ait une paix nucléaire qui puisse se faire dans la région. Mais en tout cas, on ne sait pas bien à quoi ce machin peut servir si on n'arrive même pas à être sûr que les deux personnes sont en bonne condition pour se rencontrer.
Ouais, ça semble quand même pas très bien parti tout ça.
Bah écoute, il y a des négociations, donc c'est possible qu'il y ait finalement un troisième round la semaine prochaine, qu'on en sache un peu plus.
Alors que Trump aujourd'hui a rencontré un autre Kim, en fait une autre Kim, mais enfin bon, c'était une vedette de la télé américaine pourrie, ouais. Donc voilà, c'était pas le vrai Kim en fait, ça avait pas d'impact politique. Bref, il est l'heure de se quitter, il nous reste quelques secondes, on se retrouve la semaine prochaine pour le seul et unique Canu Info du jeudi du monde, donc qui a lieu tous les jeudis de 19 à 20h.
Ah, il sait même plus à quelle heure de rendez-vous. Tu veux empiéter en fait sur les autres émissions,
non,
c'est
non,
ça.
Non, il reste 20 secondes donc.
Alors, eh ben oui, je vous
j'ai
dis
pas d'agenda donc
bah, non, mais on vous dit à la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne soirée. À l'écoute de la petite cuillère et à l'écoute de Radio Canu tout court.
Bye bye.
Ciao.